Décryptualité, semaine 44. Salut Manu.
Salut Luc.
Le sommaire de cette revue de presse.
Petit sommaire. Et on n'est que tous les deux, ça explique sûrement.
Oui, bah, je pense qu'effectivement, les journalistes font attention. Ils prennent des nouvelles et ils font moins d'articles quand on est peu nombreux, j'imagine.
C'est ça.
ICT Journal, les entreprises gèrent mal les dépendances open source de leurs applications. Un article de Yannick Chavan.
Alors, pour une fois, j'ai été jeté un œil parce que c'est pas le premier article qui parle de « attention, il y a des dépendances open source, on fait les entreprises qui les utilisent ne font pas assez gaffe et ça entraîne des problèmes de sécurité et de fiabilité ». Parce que vous comprenez, quand on a 10 000 dépendances dont on dépend, il en suffit d'une pour pourrir le panier. Donc j'ai été jeter un œil et effectivement, bah, y a une vraie étude derrière qui est pas trop mal foutue par des sociétés, une entreprise qui gère de la qualité, donc... Oui, peut-être qu'effectivement, ces articles leur font de la pub, en disant « il faut passer par ces sociétés pour analyser les dépendances de logiciels ». Mais en même temps, oui, il est vrai que les dépendances de logiciels libres, parce que les logiciels libres, on peut en dépendre, on peut les réutiliser, c'est un peu leur but, d'ailleurs, eh bien, le fait de réutiliser toutes ces briques, ça peut rendre les murs un peu instables si on les réutilise mal. Donc, il faut y faire attention. Allez jeter un œil parce que bah, je voudrais bien voir d'autres personnes un petit peu qui analysent le sujet.
Il y a la dimension juridique et la dimension technique. C'est-à-dire qu'on,
c'est ça.
Va aller prendre des briques, on veut être sûr qu'elles marchent bien, qu'il n'y a pas de faille de sécurité, ça faut le suivre. Et après, si on ne fait pas du libre derrière, quand tout le monde fait du libre, c'est beaucoup plus simple.
Il y a aussi des, voilà, ce qu'ils appellent les problèmes légaux, hein, tout simplement.
Archimag, Cloud, le gouvernement annonce une enveloppe de 1,8 milliard d'euros. Un article de Bruno Texier.
Bon, j'ai pas été regardé dans le détail, hein, j'ai un peu lu des articles, mais voilà, bah, y a de l'argent qui arrive. On sait qu'il y avait des problèmes et qu'il y a des problèmes parce que le cloud, c'est-à-dire l'informatique en nuage, c'est-à-dire les serveurs des autres que l'on loue en général, eh bien ces serveurs-là, en gros, on les prend aux États-Unis parce que c'est eux qui ont la compétence. Et donc là, on s'est bien rendu compte que ça posait des problèmes, on a voulu les remettre en Europe. Mais on pense qu'on n'a pas les compétences en Europe, donc on utilise encore les entreprises américaines. C'est gênant. Là, il y a de l'argent qui arrive un petit peu. On va espérer que ça ne sera pas distribué à Google et Microsoft et Amazon, hein, que ça va arriver sur les pépites européennes.
Ces deux dernières semaines, on a eu des articles hein, de gens qui défendaient justement l'idée que les entreprises françaises et européennes étaient capables de faire le boulot et pouvaient développer les compétences. Donc, gros sujet d'indépendance, gros sujet pour savoir qui va toucher sa part des 1,8 milliard d'euros. Donc on comprend que tout ça échauffe les esprits. Et bon voilà, nous on aimerait plus d'autonomie européenne, plus de logiciels libres, et pas effectivement aller payer des licences propriétaires de techno américaines. Clubic.com, pourquoi Mastodon demande la publication du code source du réseau social de Trump? Un article de Fanny Dufour.
Qu'on a déjà abordé rapidement la semaine dernière, parce que le sujet a déjà été lancé. Oui, Trump, il a été bloqué sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Force de dire des bêtises, ben voilà, il y a des gens qui ont voulu arrêter ça. Et il a lancé déjà un premier réseau social il y a quelques temps, mais c'était vraiment ridicule. Donc là, il en a lancé un autre qui est un peu plus solide. Il y a des financements notamment derrière, hein, des trucs assez importants. Il y a des équipes de développeurs. Et ils ont été très intelligents, je trouve, les développeurs. Ils ont repris Mastodon, qui est un logiciel libre de ce qu'on appelle du microblogging, un peu comme Twitter, donc. Et ils ont fait ce qui s'appelle Truth Social, le réseau social de la vérité, je sais pas avec quelle mauvaise foi on peut l'appeler, mais voilà. Manque de bol, en reprenant Mastodon, ils ont repris un logiciel libre qui est sous Copyleft, il a une licence qui s'appelle la licence AGPL, qui normalement vous force, si vous le réutilisez, à ce que votre logiciel soit lui-même libre. Et oui. Bah, il se trouve que c'est pas le cas, donc bah, les gens qui possèdent le droit d'auteur, les ayants droit de Mastodon, demandent des comptes à Truth Social, et en théorie, dans un mois, si leur code source n'est pas ouvert, ils n'auront plus le droit légalement d'utiliser le code de la brique Mastodon. Et là, il pourrait y avoir des répercussions au tribunal. En tout cas, c'est la théorie, parce que derrière, il y a des millions, des centaines de millions et des avocats. Et que ça peut être un peu plus compliqué, on le sait.
Bah nous, on est sur Mastodon, d'ailleurs. Hein, Décryptualité, si vous voulez nous faire un petit coucou, ce serait avec plaisir. De quoi on va parler cette semaine? Il n'y avait que trois articles dans la revue de presse.
Oui, oui, alors ça c'est un peu léger, mais effectivement il y a un autre sujet qui est plutôt pas mal, que t'as remonté, c'est toi qui intéressais là ces derniers temps, mais qui est pas mal, c'est un sujet technique. Oui, oui, c'est technique, hein.
Alors pas
à la base. À la base c'est technique, oui. C'est les algorithmes, et il y a une particularité que tu voulais monter sur les algorithmes.
Oui, oui, alors on en parle quand même régulièrement, et notamment par rapport aux réseaux sociaux, c'est quand même un sujet voilà, qu'on remonte très fréquemment. Et c'est un article de blog, donc qui n'est pas le blog de n'importe qui, c'est le blog d'Olivier Hertzshade, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication, qui a beaucoup écrit sur les réseaux sociaux et sur les algorithmes, etc. Et en octobre, le 26, donc son blog s'appelle affordance.info, avec deux F, il a fait un article qui s'appelle « Les algorithmes sont-ils de droite ?». Donc, long article, très intéressant, qui a pour origine un article publié par Twitter, hein, le réseau social, d'une étude menée en interne, donc ils ont publié, dans un souci de transparence, et qui démontre que, ben oui, Twitter, mais Olivier Hirschfeld explique qu'on sait que c'est la même chose sur tous les autres réseaux sociaux, est un réseau social où les idées de droite circulent beaucoup mieux que les idées de gauche.
Alors, honnêtement, je pense que l'article lui-même est présenté avec un titre putaclic, l'on dit, oui monsieur, parce que les algorithmes sont-ils de droite? Point d'interrogation, c'est un truc typique pour qu'on clique dessus et qu'on a jeté un œil. Et tu t'es fait avoir.
Parce que, écoute, non, l'article est assez long et très documenté. Il a écrit plusieurs bouquins sur le sujet, hein, c'est son sujet de recherche. Et de fait, on parle bien de politique, puisque en fait, l'étude est allée voir des gens qui sont politiquement engagés et les idées qui circulent, etc. Donc on parle très 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 clairement de politique. Et l'étude a été faite sur des gros volumes de données dans plein de pays. Donc il y a une exception en Allemagne, manifestement, avec des petites analyses pour essayer de comprendre pourquoi en Allemagne c'est un peu différent. Ça a été fait dans plusieurs pays, dont la France. Le résultat est bien que les idées de droite circulent nettement mieux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de droite va voir des infos et relayer et voir dans son fil des infos de gens qui sont de droite, et les gens qui sont de gauche vont également en voir, alors moins parce qu'il y a le côté un peu bulle de filtre dont on a parlé, mais comparativement, ils verront beaucoup plus d'idées et d'infos de droite. Donc c'est un peu provocateur, mais derrière, il y a vraiment du contenu et on n'est pas sur quelque chose d'un petit peu tendancieux et de surinterprétation du sujet, et on parle bien de positionnement politique.
Je vais essayer, en tant qu'informaticien de notre groupe de deux, allez, vite fait, l'algorithme. Un algorithme, c'est un vieux concept, hein. Et pour ceux qui ne suivent pas trop, parce que c'est un concept qui est clairement utilisé en informatique, mais en fait, qui est un concept très général, c'est simplement les règles que l'on applique, hein. Les règles de triage du linge pour la machine à laver, eh bien, ce sont des règles qui vont entraîner un algorithme. C'est un peu la même chose si on veut mettre quelqu'un en prison. Si on veut mettre quelqu'un en prison, on peut appliquer des règles qui vont être déclinables sous la forme d'un algorithme. Alors, cette personne, ça fait combien de crimes elle a réalisé? Quelle était la nature du crime? Quelle était sa couleur de peau? Oui, il y a des endroits où on peut utiliser ce genre de règles, bien sûr. Et ben, toutes ces règles-là, on les met en forme dans l'informatique et on les applique. C'est ce qu'on appelle un algorithme. C'est quelque chose d'assez précis à l'origine. Mais aujourd'hui, ça a pris beaucoup plus d'ampleur, parce que de la même manière qu'on peut mettre des gens en prison en suivant un algorithme, mais on se rend compte que les algorithmes, ils sont pas neutres et loin de là.
C'est un sujet qui est évoqué dans l'article, où il va citer justement Antonio Casilli, qui dans un bouquin disait que les algorithmes, ce n'est que le reflet des règles. Et cette idée, elle est connue de longue date. Hein. On a souvent parlé du code ISLO de Lawrence Lessig, où il avait sorti ce truc-là au début des années 2000. Et donc du coup, ça pose cette question de savoir est-ce qu'il y a une volonté des réseaux sociaux d'avoir des algorithmes qui vont pousser les idées de droite? Ou est-ce que c'est le résultat d'autre chose? On en avait parlé ces dernières semaines, notamment avec les révélations et les fuites faites par Frances Haugen sur Facebook, qui disait qu'en fait c'était plus rentable. Donc même s'il n'y a pas de volonté politique, les fake news et les trucs qui font scandale, etc., et donc toutes les idées d'extrême droite ou complotistes ou ce genre de choses, font beaucoup plus recette d'un point de vue business Facebook que les autres.
Ouais, je me rappelle, je sais plus si c'était sous la forme d'une interview, mais il y avait des gars qui diffusait des fake news pour se faire du fric. Et en gros, ils profitaient de la publicité. Chaque fois que les gens venaient lire leurs articles, il y avait de la publicité à côté et ça leur permettait de gagner de l'argent. Et en fait, ces gars-là, qui en avaient rien à fiche du contenu, hein, clairement, ils s'étaient rendus compte, d'après ce qu'ils disaient en tout cas, que oui, les fake news de droite, celles qui trollaient sur les concepts qui étaient plutôt soutenus par la droite, bah, ils rapportaient plus, tout simplement, et que les gens avaient plus de facilité à aller sur ces liens, sur ces textes, hein, pour les lire, les parcourir et les rediffuser. Et donc, il y avait une viralité à ces idées-là, ces mèmes.
Oui,
et
donc, oui, effectivement.
On pourrait imaginer que c'est la même chose pour les algorithmes de Twitter et de Facebook. Eh bien, on clique plus facilement sur un titre putaclic de droite.
C'est effectivement le cas, et c'est une des hypothèses qui est évoquée dans l'article en disant est-ce que c'est pas juste le reflet de la société, où les gens aiment les trucs, le scandale et s'indigner, etc. Et est-ce que la société n'est pas juste à droite, et donc ce sont les idées droites qui sont partagées. Une des choses qui est évoquée, c'est que notamment les gens de droite, et donc ça s'appuie beaucoup sur l'expérience des électeurs de Trump et de l'élection de Trump, ont d'une part des idées plus simples, d'autre part ont le sentiment qu'ils sont peu relayés dans les médias, et on le voit aujourd'hui en France.
Que les journalistes et toute la sphère médiatique est plutôt de gauche, hein, en gros.
C'est ça, voilà. Et donc du coup, souvent à droite, on trouve voilà, des gens qui ont plus d'argent, plus d'éducation, qui vont être donc plus à l'aise avec les outils numériques, et que ça, tout mis ça bout à bout fait que effectivement les gens qui sont dans ces idées-là sont plus virulents, donc occupent plus d'espace, font plus de bruit, et donc on va finalement les entendre nettement plus sur les réseaux sociaux.
Alors, je te reprends, hein, mais moi, je suis pas d'accord. Hein. Plus d'éducation à droite, faut voir tous
les
profs
d'université. C'est sûr, quand on pense aux électeurs de Trump, on n'est pas tout à fait convaincu. Après, il y a aussi le phénomène de, que ces boîtes-là, bah, Facebook, on l'a vu avec toutes ces affaires, ils sont là pour gagner de l'argent. Dans l'aéropage de Facebook et de toutes ces grosses boîtes, bah, on a des gens qui sont dans le business, c'est des entreprises cotées en bourse, etc. On trouve des gens qui sont plutôt à droite, parce que la droite va être plutôt en faveur de moins d'impôts, de ceci, cela. On rappelle que toutes ces grosses boîtes et plein d'autres se font aligner par les impôts chez nous très régulièrement. Mais que l'État continue à leur passer des commandes, par exemple, en se disant que bah, y a pas de problème finalement à commander à Microsoft, entre autres choses, toutes les grosses boîtes le font alors qu'ils font l'optimisation fiscale et qu'en plus de ça, les impôts leur tombent dessus et leur mettent des redressements assez sévères. Et donc il y a à la fois des entreprises qui sont dirigées par des gens qui sont quand même très à droite, avec des milliardaires qui, également dans la presse, maîtrisent énormément de choses, sont dans un monde où leur rémunération a explosé depuis 15-20 ans, et qu'ils n'ont pas envie que ça change, et donc du coup, ben, ils aiment bien que le statu quo reste. On peut penser à la situation actuelle avec Zemmour et le fait que, ben, qu'il est porté par un milliardaire qui a racheté plein de médias et qui, lui, a clairement un agenda d'extrême droite. Donc il y a à la fois la volonté et également le business et le fait que c'est des gens qui font du bruit, quoi.
Petite remarque, je trouvais amusante, c'est que les algorithmes sont maîtrisés par certains et donc ils appliquent les règles qui leur conviennent et qui vont dans leur sens. Hein. Effectivement, je pense que un Bolloré, si tu lui donnes le choix dans les journalistes et qui vont travailler avec lui, va les orienter dans un certain sens et ça va entraîner plein de choix derrière. Mais il y a aussi une partie qui émerge et qui vient tout simplement de la complexité. Et d'après ce que disait Frances, bah, Facebook ne maîtrise pas toutes les conséquences et toutes les parties, les mécanismes de ces algorithmes. Et en fait, ce qu'on en voit, nous, c'est plutôt un mécanisme qui est émergent, mais qui n'est pas clairement compris par ses concepteurs.
Alors c'est effectivement un autre article qui a été publié là-dessus et qui ressort des analyses des documents qu'elle a fait fuiter. C'est que chez Facebook, personne ne contrôle ce que les algorithmes font vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté plein de critères dedans, etc. Et en fait, chaque information, chaque post, ça va obtenir une note pour voir est-ce qu'il est intéressant ou pas. Comme c'est des équipes différentes et que c'est devenu hyper compliqué, plus personne ne contrôle ça. Donc ils arrivent à regarder si ça fait de l'argent. Est-ce qu'il y a ce fameux engagement derrière parce que c'est le seul critère qui compte réellement pour eux. En revanche, quand ils ont été attaqués sur les fake news au fil des dernières élections, des dernières années, à chaque fois, ils ont dit oui, on va améliorer ça. Ça n'a jamais marché. C'est vrai pour Google et tous les autres. Hein. Et on découvre maintenant, on s'en doutait, mais on a la preuve, qu'en fait, ils ne contrôlent rien. Ce qui fait qu'il ne faut pas rentrer dans une théorie du complot en disant que tous les réseaux sociaux veulent orienter les opinions, bien que ça existe, hein, puisque voilà, un mec comme Bolloré veut orienter les opinions, c'est son objectif. Mais en même temps, ils ont pas même s'ils ne veulent pas le faire, ils n'ont pas intérêt à ne pas le faire. Et d'une façon générale, les idées qui sont mises en avant vont plutôt dans le sens des gens qui dirigent ces entreprises.
Donc c'est des sujets qui sont super compliqués. On sait qu'il y a eu des conséquences majeures. On imagine dans une certaine mesure que, par exemple, le Brexit, mais l'élection de Trump aussi, étaient les conséquences, dans une certaine mesure, hein, encore une fois, c'est compliqué à jauger,
oui,
de ces algorithmes. Parce que on sait qu'il y a eu des données de Facebook qui ont été utilisées pour manipuler les électeurs.
Oui, avec et cette donc... idée que, avec Cambridge Analytica, c'est vraiment cette volonté, cette capacité à manipuler les gens. Et on a des infos contradictoires. Hein. Il y a des articles qui disent que oui, ils ont des moyens énormes, des articles qui disent que non. A priori, il y a eu finalement peu d'influence et que c'est surtout Cambridge Analytica qui essaye de vendre sa soupe. On a les usines à trolls, notamment russes, qui sont là pour essayer de semer le trouble et foutre le bordel dans les pays adverses autant que possible, parce que pour eux, c'est intéressant d'un point de vue géopolitique. Et tout ça est un magma terrible dont finalement, on ne sait pas s'il y a un pilote dans l'avion ou pas du tout. Et c'est le sujet qui est un peu flippant et où on aimerait bien y voir plus clair.
Bon, moi, j'ai une solution. Je pense qu'on t'élit comme dictateur bénévole à vie. Et puis alors là, tu vas nous clarifier tout ça d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en dis ?
Je suis partant, allons-y.
Bon, je vous propose à tous de nous retrouver la semaine prochaine après avoir élu en bonne forme un dictateur, Luc.
Voilà, Luc premier. Alors, pas trop bénévole quand même parce que bref.
Oui, faut que tu gagnes un peu ta vie. Et puis le sujet nous portant tel qu'on est là, on est vraiment motivé par le sujet. Je pense qu'on va le reconduire à un moment donné parce qu'on a vraiment qu'écrémé. Le début.
Oui, Et quand je serai dictateur, Décryptualité sera obligatoire, passera 20h sur tous les médias dans le monde. Voilà.
Ce sera efficace. Bon, je te dis à la semaine prochaine.
Salut.